Pour parler de la place des femmes parmi les patrons, nous nous sommes tournés vers une sérielle entrepreneuse qui fait beaucoup pour que d'autres sautent le pas et construisent leur entreprise. Nous recevons donc Elvire Prokil. Déléguée générale de l'association Occitanie Pionnière, consultante en management de l'innovation et entrepreneuriat via Pragma Consult, mentor marketing au Google Launchpad de Toulouse, et aussi et surtout une des personnes qui nous ont donné envie de monter cette émission. CPU, carré et petit utile. Bonjour Elvire.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Ça va bien et toi ?
Oui, très bien. On est content de t'avoir avec nous.
Moi aussi, je suis contente d'être là.
Alors, je voulais savoir, peut-être, enfin, pour resituer un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que même si tu es quand même un peu connue sur Toulouse, si tu pouvais nous reparler un petit peu de ton parcours.
Alors, moi, j'ai créé mon activité en 2004 dans l'accompagnement de start-up dans le monde du digital. Et puis, petit à petit, je suis allée vers les applications spatiales. Et j'ai rencontré des dirigeants de start-up dans des boîtes plutôt techno. Et donc moi, plutôt d'une formation marketing, sciences éco, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques lacunes de connaissances, on va dire, sur l'organisation d'une entreprise, les fonctions principales de l'entreprise. Et j'ai eu l'opportunité de me positionner sur des start-up week-end. En fait, à partir de 2011, pour essayer justement de faire passer le message à des étudiants et à des futurs start-upers, on va dire, de l'importance des fonctions support dans une start-up. Voilà. Donc, on va dire que les start-up week-ends, c'est un peu mon laboratoire de recherche personnel pour pouvoir travailler ensuite sur des actions à mener auprès de mes clients potentiels sur ces sujets-là. Et donc, ça m'a donné l'opportunité d'être visible dans l'entrepreneuriat étudiant. Qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je coordonne un programme dédié à l'entrepreneuriat étudiant qui leur permet de se tester sur un projet de création d'entreprise et en même temps, peut-être, c'est un vrai effet de levier pour eux pour créer à la sortie. Voilà. Et dans le cadre donc de cette expérience, de ces expériences en lien avec l'entrepreneuriat étudiant, j'ai croisé une femme. Donc, qui intervient aussi dans l'entrepreneuriat étudiant et qui est fondatrice de la Fédération Pionnière à Paris et de Paris Pionnière, en fait. Et donc, évidemment, on s'est retrouvés sur des valeurs communes et elle m'a proposé de partir dans l'aventure de Occitanie Pionnière avec elle. Voilà.
C'est une belle aventure. Et sans faire de jeu de mots, tu as été une pionnière, en fait, sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu sur cette pédagogie des startups, etc. Enfin, comment les amener aussi sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas trop. Et finalement, tu as démarré hyper tôt hein, par rapport à l'écosystème aujourd'hui.
Écoute, oui, on va dire que c'est avec le temps que je me suis rendu compte que j'étais une pionnière et que j'avais une approche avant-gardiste dans mon activité, dans mon métier. C'est vrai que quand j'ai démarré en 2004 avec ce choix, en fait, le métier n'existait pas. Ça m'a valu quelques difficultés justement pour trouver ma place dans l'écosystème, pour faire en sorte que le métier que je voulais exercer et l'accompagnement que je voulais proposer soit compris par l'écosystème. Et on va dire que c'est l'évolution des modèles économiques, des impulsions politiques au final, avec le financement de l'innovation, les pôles de compétitivité, etc., le marketing de l'innovation. On a commencé à parler de marketing de l'innovation à partir de 2005. Moi, j'avais déjà un an, j'étais déjà là depuis un an, en fait, mais c'est vrai que j'ai été un peu de mieux en mieux comprise, on va dire, dans ce métier-là, à partir de 2005-2006, quoi, voilà.
Et alors, tu parles de difficultés, tu peux nous préciser des difficultés que t'as rencontrées ?
Les difficultés, je pense qu'elles étaient d'abord culturelles, parce qu'effectivement, apporter une fonction marketing externalisée à une entreprise, à une start-up, par exemple, typiquement, à l'époque, c'était un peu un ovni, quoi. Voilà. Souvent, l'environnement dans lequel j'ai pu évoluer, évidemment, et dans lequel je suis arrivée, était un environnement masculin, très scientifique et technique, avec une formation sciences éco, marketing. Forcément, on rencontre de nouveau la dichotomie des deux mondes, les sciences de l'ingénieur d'un côté, les sciences de gestion de l'autre. Et justement, cette... ce manque de communication entre ces deux mondes, en fait, moi, je l'ai vécu entre les humains, au final aussi. Et donc, ça a été un premier obstacle d'arriver à être crédible vis-à-vis d'acteurs des mondes scientifiques et techniques. Et c'est à force d'obstination, de persévérance, que j'ai voulu et cherché à démontrer que j'étais en capacité de comprendre l'information scientifique et technique, et surtout que j'étais en capacité de la vulgariser en des mots simples, bénéfice utilisateur, marché, finalement. Et là, on revenait sur mon métier, technique marketing, finalement, pour pouvoir amener une complémentarité à un client potentiel.
Voilà. T'as remarqué des évolutions par rapport à ça, ou est-ce que...
Oui, sur 15 ans, sur 15 ans, j'ai effectivement remarqué une évolution dans les mentalités, déjà, et dans les relations humaines, simplement. Les générations Z, X, Y, Z, en fait, sont très différentes, et les générations Z sont beaucoup plus dans l'égalité, on va dire, de comportement et de relations. Que la génération, notre génération, on va dire déjà. Et puis effectivement, au niveau des métiers, le métier du marketing est un peu mieux compris par les mondes scientifiques et techniques. Et je pense que les méthodes agiles n'y sont pas pour rien, en fait. Voilà.
Et justement, c'est comme quoi. Tu parlais de comportement. Est-ce que ça t'agace que certains fassent systématiquement une bise parce que tu es une fille et pas une poignée de main ?
Non, je mets pas ça sur le fait que je sois une fille, mais plus sur c'est culturel, quoi. Aujourd'hui, voilà, culturel, tout le monde se fait la bise, c'est facile, voilà. Mais pour autant, il m'arrive de tendre la main. Professionnellement, et de me retrouver avec des gens qui me font la bise, ouais. Homme ou femme, hein, c'est pareil, hein. Donc c'est pour ça que je fais pas pour moi, il n'y a pas de différence sexiste, on va dire, sur cette
justement situation. On parlait de rituel culturel. Est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité féminine dans la direction d'équipe?
Alors, je pense, oui, qu'il y a des spécificités, une spécificité féminine dans la direction ou dans le management d'équipe, qui tiennent aux qualités intrinsèques de la femme, en fait. Peut-être plus d'écoute, plus de patience, plus d'empathie. Plus une différence dans la gestion de l'entreprise aussi, dans le rapport au risque. Par exemple, simplement, hein. Ça se voit aussi dans les crédits qui sont accordés. Alors les crédits, les deux crédits, hein, crédit financier ou crédit crédibilité, qui peuvent être accordés à une femme dirigeante. Elle doit d'autant plus montrer aussi sa capacité à faire, en fait, de façon un peu spontanée. Alors est-ce que c'est sociologique ? Parce que je pense que dans les mondes anglo-saxons, l'entrepreneuriat des femmes est plus équilibré que dans les mondes latins, on va dire. Donc peut-être qu'il y a de la sociologie, et peut-être que toute la communication qu'il peut y avoir aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des femmes est vouée justement à lisser finalement cette différence. Si tant est qu'on puisse parler vraiment d'une différence, je ne parlerai pas de discrimination, mais de différence. Et j'espère qu'elle sera gommée avec le temps, quoi. Quelque part aussi.
Et tu ressens pas, en fait, j'ai l'impression, là, quand on évolue justement dans l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin, ce besoin aussi des femmes d'avoir des retours d'expérience de femmes pour justement les pousser à l'initiative.
Alors, tout à fait, c'est une...
Ça va dans les deux sens, la crédibilité, tu vois, les femmes font confiance.
Oui, ouais. Alors c'est très, très... Mais je dirais même que c'est très concret, puisque là, moi, actuellement, à travers Occitanie Pionnière, donc on est en train de lancer à Toulouse, forcément, je suis en train de rencontrer des porteuses de projets, et c'est un retour fort de leur part, une attente, en fait, puisque effectivement, elles ont beau participer à des programmes d'accompagnement à la création, elles restent parfois en minorité dans les groupes, et même si ben, tout se passe très bien, elles ont besoin d'avoir un échange avec leur père, avec voilà, avec d'autres femmes, parce que justement le quotidien de la femme n'est pas le même que l'homme, et tant mieux, c'est toute notre différence, et c'est ce qui fait qu'on vit tous en harmonie, mais effectivement les femmes ont besoin de se rencontrer entre elles pour pouvoir échanger sur des problématiques qui ne peuvent être comprises que par d'autres femmes. Voilà. Et donc à travers l'arrivée d'Occitanie Pionnière à Toulouse et très fortement sollicitée sur ce point-là justement. Voilà. Voilà. Et attendue sur ce point-là. Donc la création vraiment d'une communauté de femmes entrepreneurs qui puissent échanger entre elles sur leurs problématiques du quotidien en plus de leurs problématiques de créatrices d'entreprises. Voilà.
Vous accepterez des hommes quand même pour l'expérience ou pas?
Sur l'accompagnement en lui-même, donc
pour les auditeurs,
par définition et par culturellement, donc en fait et par philosophie et credo, le programme est dédié aux femmes créatrices, cofondatrices, co-gérantes. Mais évidemment, les hommes sont acceptés dans l'univers des pionnières, puisqu'il s'agit d'accompagner des femmes créatrices d'entreprises mixtes. Voilà, donc bienvenue les hommes.
Et de toute voilà, façon, tout n'est pas perdu.
Elles seront accompagnées par des coachs et des entrepreneurs, comme par des femmes, bien évidemment. Donc, on est dans la vraie vie.
Oui, voilà. Il faut œuvrer pour la réconciliation.
Exactement.
Vous écoutez CPU. Nous recevons Elvire Prochilo, déléguée générale de l'association Occitanie Pionnière. Si on va creuser un petit peu plus sur Occitanie Pionnière, t'en as parlé un petit peu en début d'interview là, la personne qui en est à l'initiative, parce que c'est un réseau
International.
International, voilà. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Ouais.
Voilà, donc la Fédération Pionnière, en fait, regroupe 11 incubateurs en France, sur tout le territoire quasiment, sauf l'Occitanie. Donc, il était temps.
Ah oui,
Et donc, Pionnière est aussi présent, la Fédération Pionnière est aussi présente à Bruxelles, au Luxembourg et au Maroc. L'objectif.
C'est bien ça, parce que les pays d'Afrique du Nord, en général, ils sont un peu délaissés.
Ouais, tout à fait. Mm. Alors, en plus, au Maroc, c'est un regroupement de pépinières, en fait, Fédération Pionnière au Maroc, en fait, carrément. La fédération existe depuis 2005. Et effectivement, au départ, l'objectif était de créer des incubateurs, donc c'est-à-dire des locaux avec une vraie infrastructure, un vrai programme, des vrais accompagnements, etc., comme un incubateur, une pépinière d'entreprise. Et avec l'évolution des politiques dédiées à l'entrepreneuriat, le modèle économique évolue vers la mise en place de programmes en partenariat avec les acteurs de l'écosystème local, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que à Toulouse, enfin du moins à Toulouse qui va être le siège d'Occitanie Pionnière, on envisage d'ouvrir à Montpellier courant 2018. On va commencer par déployer un programme dédié à l'accompagnement des créatrices d'entreprises pour la bonne et simple raison qu'il y a déjà un écosystème d'accompagnement à la création à Toulouse et que évidemment on va travailler en cohérence avec l'écosystème et ne pas être redondant dans la proposition de valeur de l'accompagnement. Voilà. Donc forcément, on va rencontrer tous les acteurs de la création d'entreprises, mais aussi des réseaux de femmes qui existent, qui sont présents à Toulouse, qui restent encore très discrets malgré tout. Et peut-être qu'avec l'arrivée d'Occitanie Pionnière, qui est une marque nationale, on va pouvoir travailler sur une vraie émulation autour de l'entrepreneuriat des femmes, tous ensemble, encore une fois. Voilà. Et donc j'ai déjà des contacts avec des réseaux de femmes, dont Digital Girls, mais d'autres, femmes créatrices d'entreprises, Action Femmes Grand Sud, avec qui on va pouvoir voir comment on va pouvoir s'articuler et travailler sur une meilleure visibilité de l'entrepreneuriat des femmes. Voilà. Après, le programme, pour justement qu'il rentre dans une vraie chaîne de valeur finalement de l'entrepreneuriat. L'objectif est vraiment de travailler en amont sur l'accompagnement des femmes en amont de la création, pour justement les aider à être plus en confiance dans leur projet, dans leur posture, dans les démarches qu'elles doivent réaliser. On va avoir peut-être une approche aussi sur l'estime de soi. Donc travailler sur des qualités intrinsèques de la femme qui font que pour l'instant, elle n'est pas assez audacieuse pour passer le stade de la création d'entreprise, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est des points qui sont très, très importants pour la Fédération Pionnière. Et évidemment, on va aussi continuer à les accompagner en pré-incubation de l'idée au business plan, avant de les réorienter, certainement, du moins dans un premier temps, vers l'écosystème où il y a déjà des acteurs qui font très bien le travail, quoi. Voilà. Après, si la demande est vraiment très conséquente, forcément, on va revoir notre position et on ouvrira d'autres modules d'accompagnement qui existent chez Pionnière. Et voilà, donc on va aller progressivement dans l'implantation d'Occitanie Pionnière à Toulouse et puis sur Montpellier.
Mais du coup, ça se passe comment pour une personne qui est intéressée? Il faut qu'elle contacte l'association? Vous n'avez pas de locaux?
Alors, pour l'instant, on n'a pas de locaux. On est en discussion avec des espaces de coworking pour voir donc comment on va pouvoir justement travailler avec eux et voir comment ils peuvent accueillir cet accompagnement en partenariat avec nous. Pour l'instant, on a une adresse mail à travers lesquelles justement les porteurs de projets peuvent venir vers nous. On a commencé à créer des outils de réseau social, donc on a un compte Twitter, on a une page Facebook, donc là c'est pareil, c'est un premier moyen de communication. Évidemment, on va aussi faire des actions de sensibilisation chez des acteurs de la recherche d'emploi ou qui accueillent des femmes en repositionnement professionnel et qui peuvent se poser la question, peut-être des cabinets en recrutement avec les réseaux de femmes dont je parlais tout à l'heure, et puis voilà, travailler sur du sourcing après au travers de challenges entrepreneuriaux aussi. On a plein d'opportunités pour rencontrer les actrices. Et effectivement, vous êtes, merci d'ailleurs, je vous remercie pour ça, et vous êtes une opportunité de faire connaître Occitanie Pionnière. Et effectivement, on va communiquer aussi là, incessamment sous peu, sur l'ouverture du premier module d'accompagnement pour fin avril.
Il y en a une qui veut postuler là, on dirait déjà. Est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité sur des secteurs, et notamment tout ce qui est secteur IT, technologique? Est-ce que
Alors, très bonne question. Donc, en fait, clairement, quand on a réfléchi à l'implantation d'Occitanie Pionnière, évidemment, on a fait une première étude de marché. On a essayé de voir un peu ce qui se passait sur le territoire. Il s'avère que l'économie sociale et solidaire est très, très organisée, très structurée pour l'accompagnement des femmes. Et donc, moi, déjà, pour avoir évolué dans le monde du digital et pour évoluer dans le monde du digital et du spatial et des sciences techno depuis 15 ans, forcément, on se rend bien compte que la place de la femme est un peu limitée. Et donc, on va essayer d'orienter un peu l'accompagnement sur ce secteur-là, pour permettre aux femmes de mieux s'exprimer dans les sciences de l'ingénieur, justement, enfin, de trouver ce territoire d'expression dans les sciences de l'ingénieur et du numérique, mais pas que. Bien évidemment, on ne fermera pas la porte à d'autres porteuses de projets de l'économie sociale et solidaire, de l'économie traditionnelle et autres. Voilà.
Et du coup, donc, pour ça, vous allez aussi, j'imagine, faire des liens avec les écoles, aller chercher un peu plus tôt ou...
Alors, oui, alors
que
clairement...
La problématique qu'on a, c'est ça aussi, c'est que alors, c'est les jeunes femmes qui osent pas, quoi.
Tout à fait. Donc il y a des actions à mener, notamment dans l'enseignement supérieur, c'est très clair. Pour travailler dans l'entrepreneuriat étudiant et être en contact avec le monde académique, moi j'ai déjà quelques remontées d'informations sur ce sujet-là et des sollicitations. Donc forcément, on va avoir une double action dans les sciences de dans l'enseignement supérieur, pardon, et évidemment à la sortie des études, quoi, et pour les femmes et qui ont envie de créer, qui sont aussi déjà professionnelles et voilà, ou en repositionnement, je veux dire. Donc oui, dans l'enseignement supérieur, oui, notamment dans le monde de l'ingénieur, école d'ingénieur.
Est-ce que vous avez déjà des personnes, justement des femmes qui ont des parcours un peu exceptionnels, qui, vous savez, vont pouvoir déjà partager leur expérience pour les futures entrepreneuses d'Occitanie?
Alors, pour
exceptionnel ou pas, mais en tout cas des exemples entre guillemets. Des,
oui, alors des exemples.
Des inspiratrices.
Des inspiratrices. Oui, il y en a à Toulouse. Il y a des belles personnalités à Toulouse. Pour l'instant, je les ai pas encore sollicitées, approchées, parce que, comme je dis, l'association est créée depuis fin janvier. Donc là, tout se bouscule. je suis fortement sollicitée par les porteuses de projets et je veux leur répondre assez rapidement. Donc pour moi, elle reste prioritaire. Mais évidemment, l'objectif est de travailler avec des femmes entrepreneurs qui ont des parcours un peu success story, hein, et même les autres, hein, même celles qui ont eu des difficultés, parce que justement,
oui,
leur
au
expérience
contraire.
Est aussi
voilà.
extrêmement riche. Et l'objectif, c'est de monter des événements, de créer des événements, avec en les faisant parler, en les faisant intervenir avec d'autres acteurs, encore une fois, de la création.
Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un Startup Weekend spécial pionnière?
Pourquoi pas? Écoutez, moi je reste ouverte à toutes les propositions. Alors, spécial pionnière, je trouve que c'est un peu dommage.
Non, mais c'est
pour les femmes.
C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parfois dans ces événements-là.
Ouais,
donc,
c'est vrai. Ouais. Et par rapport, pareil, au programme dédié à l'entrepreneuriat étudiant que je coordonne, on a 25% de jeunes filles qui rentrent dans ce programme. Donc on les encourage chaque année à être plus nombreuses. On a des porteuses de projets. Donc ça, c'est pareil, c'est encourageant. Et on essaye de les récompenser en fin de programme. Donc voilà, on fait tout pour, travailler justement sur cette sensibilisation à l'entrepreneuriat des femmes. Et pourquoi pas? Évidemment, un challenge entrepreneurial, quel qu'il soit, où les femmes ont le premier rôle.
Est-ce que tu penses que justement, pour aller plus loin dans l'entreprise, il faudrait... il y a déjà des règles, des entreprises qui s'y mettent, mais est-ce que la discrimination positive, pour toi, c'est quelque chose qui est justement positif pour l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est au contraire une façon de décrédibiliser les femmes?
Alors, j'aime pas trop les termes discrimination.
Discrimination, déjà, c'est pas un mot très joli, ça c'est sûr.
Voilà,
je suis complètement d'accord avec toi.
Voilà, j'aime pas trop ces termes-là. Moi, je pense qu'il
faut... Mais disons, mener un effort particulier sur le fait qu'il y ait des femmes sur des postes managériaux, par exemple.
Oui, il semble que ce soit nécessaire pour arriver à avoir un peu plus de mixité, on va dire, dans les entreprises. Le credo de Pionnière, c'est mixité par innovation égale croissance au carré. Donc clairement,
<C'est joli. rire>
voilà. Donc clairement, encore une fois, j'y reviens. On est sur des équipes mixtes, même si ce sont des femmes qui dirigent la structure. Donc toute la subtilité est là. Et justement, c'est aussi un moyen de démontrer que c'est ensemble et dans l'harmonie qu'on arrive à avancer
ouais.
et à faire des belles choses tout ça.
Ouais, ouais.
Voilà.
Vous écoutez CPU et nous recevons Elvire Proquillo, déléguée générale de l'association Occitanie Pionnière. Bon alors, vous public, vous ne savez pas, mais en fait, Xavier, il vient de nous montrer un truc hallucinant. Bon, on va pas en parler parce qu'on est assez effarés, Elvire et moi, mais juste... Les publicités WinDev, WebDev. Alors, je ne sais pas s'il y a des auditeurs, des auditrices qui connaissent, mais c'est ahurissant. Je suis même contente de ne pas avoir vu ça avant, parce que c'est... Donc, je ne sais pas, effectivement, je crois qu'il y a un gros effort à faire quand même dans l'univers tech, sur les clichés. Parce qu'apparemment, d'après ce que soulignait Xavier, en fait, ils ont réussi à vendre plus de logiciels grâce à cette publicité. Donc, c'est... On part de loin quand même. Bon bref, revenons à nos moutons, c'est-à-dire les pionnières, les vraies, pas celles qui posent à moitié à poil pour vendre un logiciel. Donc, on a parlé des écoles déjà. Tiens, un sujet rigolo qui n'a rien à voir avec le public, mais bon, les jouets. Parce que c'est vrai, on parlait de la culture des femmes, mais c'est vrai que les petits aussi, on a tendance à foutre un ordinateur plutôt dans les mains d'un petit garçon que d'une petite fille. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ?
Alors, c'est une bonne question. Moi, je vois mon neveu, ma nièce, qui sont au même stade sur l'iPod et sur l'iPhone et sur tout ça. Donc voilà. Et petits, on les a un peu épargnés des ordinateurs. Donc, ils étaient encore au stade de la poupée et du camion.
Et du camion, et tout. Voilà.
Donc bon, voilà. Alors, encore une fois, je pense que c'est culturel et sociologique.
Ouais.
Et fortement ancré dans l'histoire judéo-chrétienne de la société, quoi. Après, je trouve que la génération Z, là, est une génération qui est beaucoup plus ouverte à l'autre, sans discrimination de genre.
Est-ce que tu penses que les outils numériques, ils ont facilité ça déjà, peut-être aussi ?
Que les outils numériques.
Bah par exemple, si on parle de l'ordinateur, tout ça, le portable, le fait d'avoir un portable facilement accessible pour une fille comme pour un garçon, d'avoir accès à des informations plus facilement aussi, ça a permis aussi de brouiller un peu, enfin de casser un peu toutes ces barrières de métier en fait.
Oui, c'est possible. C'est possible. Pour l'instant, moi j'ai pas assez de recul par rapport à ça, notamment encore une fois là sur mon neveu, ma nièce, et qui reste encore assez jeune. On va voir comment ça évolue. Après, dans les étudiants que j'accompagne à travers les entrepreneuriales, j'ai pas de codeuse, ça c'est sûr. Voilà. Clairement, les codeurs, ça ne veut pas communiquer, ça ne veut pas marketer.
Ils savent regarder les publicités pour les logiciels.
Voilà. Donc en fait, pour l'instant, on est encore sur des. Alors c'est pas des. Est-ce que c'est des clichés ou est-ce que c'est vraiment la vraie vie, quoi? Finalement, c'est la réalité. Il y a des efforts de tous les côtés, d'éducation à faire de tous les côtés.
Ouais, on n'a pas réussi encore à comprendre où est-ce qu'il faut faire le shift, quoi. Où est-ce que il y a un moment où mais il y a sûrement un moment où ça se décide et je sais pas. C'est quand même hyper bizarre, quoi.
Ouais, alors après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelques initiatives qui sont prises pour apprendre aux enfants à faire du code dans les écoles primaires.
Ouais.
Donc là, typiquement, comment c'est traité ?
L'ISB avait travaillé là-dessus et justement, voilà. Son application KesaCode, c'était sur ce sujet-là aussi. Comment donner l'accès à la programmation aux enfants dans le primaire, ouais.
C'est ça, mais surtout comment justement l'instituteur ou l'institutrice donne accès.
Va l'amener, ouais.
Voilà,
ouais.
De façon égalitaire finalement aux garçons et aux filles, au code, quoi. Voilà, comment le sujet est traité à l'école, parce que si ça se trouve, on amène l'outil. Devant les publics, et après c'est comment il est expliqué, comment il est transmis, comment il est transféré. C'est peut-être qu'une histoire de communication, c'est peut-être qu'une histoire de non-verbal aussi, pourquoi pas. Faut pas oublier que malgré tout le digital, dans le digital il y a beaucoup d'humains aussi, hein.
Ouais, tout à fait. Mais tu parlais de communication, il y a un truc important aussi, c'est que c'est valable pour les femmes, et je pense que c'est valable en général. On n'ose pas prendre la parole, quoi.
Oui.
Et j'avais entendu dire que, par exemple, aux États-Unis, ils poussent les gamins à. Tu vois, nous, on nous fait réciter des poésies, par exemple.
Oui.
Et ils poussaient les gamins à. Assez tôt, beaucoup plus tôt, à faire, pas des keynotes, mais c'est pas Steve Jobs, mais faire un peu des présentations comme ça à une équipe, et puis prendre la parole, oser mettre en avant un avis, un point de vue sur quelque chose. Et ça, en France, on n'est pas trop. Et ça pourrait faire partie, tu vois, d'une motivation et d'un glissement vers une culture un peu de l'audace, en fait.
Complètement. Alors, cette culture de l'audace, elle est différente. Elle n'existe pas beaucoup dans le monde de l'éducation, du moins pour l'instant. Notamment dans l'enseignement supérieur. Après, on voit qu'il y a quand même des évolutions actuellement, notamment dans l'enseignement supérieur. Après, je sais pas, hein, effectivement, dans le primaire, le secondaire, il y a peut-être beaucoup de choses à faire évoluer. Mais petit à petit, voilà, il y a quand même des changements de programme, on va dire, dans l'enseignement supérieur qui sont en train de se mettre en place à travers justement les programmes d'étudiants entrepreneurs. Voilà. Où forcément, l'enseignement, enfin, le monde académique va être obligé de passer par une mutation profonde pour pouvoir permettre un meilleur épanouissement, on va dire, des étudiants vers la professionnalisation, quoi, et vers l'employabilité surtout, parce que là c'est pareil, pour l'instant on reste encore dans des formations qui sont extrêmement théoriques, et finalement l'entrepreneuriat est peut-être une opportunité pour les étudiants de sortir d'un cadre théorique pour vraiment commencer à rencontrer
mettre
le réel,
les mains dans le cambouis, finalement,
voilà.
Faire l'expérience.
Ouais, c'est ça, en fait.
Mais finalement, c'est ça, ils vont avancer par eux-mêmes plus vite qu'en restant. Et reparlons de l'association pionnière. Alors pourquoi toi, comme délégué général, plutôt qu'un homme ?
C'est une très bonne question, ça
Toutes
pourrait être un homme.
Les structures de pionnières sont
non.
Des femmes à la tête, non ?
Non, il y a des hommes à la tête de certaines structures pionnières, effectivement.
C'est bien, prouvez que vous êtes dans la mixité, c'est bien.
C'est ça, tout à fait, mais je ne les ai pas en tête. Après, c'était une opportunité de rencontre, c'était des valeurs communes. Pareil, encore une fois, il y a eu une rencontre. Mais effectivement, il n'est pas dit que demain, on ait des hommes à la tête, à la direction ou à la gestion d'Occitanie Pionnière. On a déjà un homme à la gouvernance de Pionnière. Et on en est très fiers.
Big
et on espère que d'autres vont nous rejoindre, justement. Parce que typiquement, encore une fois, on est pour la mixité à 300%. Quoi. Voilà.
T'es toute seule à porter le sujet sur Occitanie ou il y a déjà des gens, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui t'aident sur le sujet ?
Non, alors pour l'instant, en fait, on est quatre cofondateurs, on va dire, avec j'ai deux femmes avec moi et donc un homme sur qui représente le bureau, en fait, la gouvernance de l'association. Pour l'instant, moi, je suis toute seule à déployer le programme, le temps de l'amorçage. Amorçage sur le terrain, amorçage financier aussi, j'assume, c'est entrepreneurial, c'est une démarche entrepreneuriale. donc pour l'instant on va pas générer des frustrations, mais il est prévu évidemment qu'on complète l'équipe soit en fin d'année soit l'année prochaine.
Et justement, tu disais financement, ça fonctionne comment pour le coup ? Vous avez des aides institutionnelles ou vous fonctionnez en autonomie ?
Alors, l'objectif est de construire un budget public-privé. On a un soutien des institutionnels, comme la région Occitanie, comme Toulouse Métropole. Mais pour l'instant, on est sur une année charnière. Au niveau budgétaire, donc on est en train de voir comment justement et quand surtout ces acteurs-là vont pouvoir nous soutenir financièrement, je veux dire, parce que déjà logistiquement c'est le cas, et puis évidemment on souhaite mobiliser des partenaires privés, donc des entreprises qui sont sensibles évidemment soit à l'entrepreneuriat des femmes, soit à l'intrapreneuriat des femmes bien évidemment, et à la place des femmes dans l'entreprise, on y revient. On a quelques discussions avec quelques partenaires qui sont pour l'instant des grands groupes, mais on espère aussi y attirer quelques PME et peut-être des ETI aussi.
Et quel est le ressenti que vous avez par rapport à ces partenaires ? Vous les sentez plutôt réceptifs ou comment ça se passe par rapport aux...
Oui, on les sent réceptifs. Alors, est-ce que c'est l'année de la femme ? Je sais pas. Hein ? Déjà, c'est le mois de la femme et de l'entrepreneuriat des femmes la semaine, ou c'était la semaine dernière, mais enfin bon, on y est. Mais cela dit, je trouve qu'il y a une prise de conscience. Enfin, on sent dans les discours, du moins, une prise de conscience de la place de la femme dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, petit à petit. Il y a aussi la réglementation. Il y a des lois qui passent sur ces sujets-là pour amener.
Il faut fouetter pour arriver à du résultat, à ton avis ?
Peut-être.
Mais regarde, enfin, c'est vrai que les... ça évolue, hein. On se demande pourquoi.
Donc, bah, écoute, il faut demander à nos chers dirigeants.
Oui, voilà. Oyez, oyez, dirigeants des entreprises du CAC 40, appel à témoignage. Quelles sont vos prochaines actions ?
Donc, les prochaines actions, c'est l'ouverture d'un module d'accompagnement à fin avril. Voilà.
Ouh, ça va aller vite, ça.
Donc, ça va très vite, hein, effectivement. Donc, ça veut dire que là, on est en train de s'organiser mais pour être accueillis dans un espace de coworking et on s'organise autour du programme hein, qu'on va lancer. On a envisagé un premier module qu'on appelle Émergence et qui est plutôt lié aux soft skills. Et justement au travail de la posture entrepreneuriale chez la femme, un module assez court hein, de 2 jours et demi, et au regard de la demande des porteuses de projets, on va certainement plutôt démarrer par un programme de pré-incubation en fait, qui dure 4-5 mois et qui va permettre à ces porteuses de projets de vraiment consolider un pré-projet pour qu'elles puissent ensuite rentrer dans une phase de vrai accompagnement avec un lancement d'entreprise. Quoi, voilà. Parce qu'on on a des porteuses de projets qui...
Il y en a beaucoup
on en a bien 5 ou 6 qui se sont manifestés, ouais, déjà.
Et alors, quel message tu aurais envie de donner à toutes ces femmes qui sont là et qui n'osent pas ?
Mais c'est pourquoi quoi, pourquoi elle n'ose pas.
Mais pourquoi
tenter l'aventure alors parfois c'est difficile, ça passe simplement par un bonjour, voilà, savoir dire un bonjour, savoir dire je m'appelle, voilà, simplement, voilà. Donc déjà rien que est-ce que déjà ça c'est pas une démarche entrepreneuriale que d'oser dire bonjour, que d'oser se présenter devant une assemblée, est-ce que c'est pas la première étape? Et après oui, forcément pour avoir osé il y a 13 ou 14 ans en arrière un peu inconsciemment j'avoue mais c'était bon.
Ah, l'inconscient donc, c'est bon voilà, des fois
l'inconscience,
hein.
L'inconscience
faut pas écouter Freud.
A dit bon, c'est ça, donc lancez-vous, soyez inconsciente et c'est magique, hein.
Merci beaucoup Elvire de nous avoir partagé ton expérience et de nous avoir parlé d'Occitanie pionnière.
Merci pour votre accueil et à bientôt.
À bientôt.